Alors, ce soir, nous allons parler de quelques éléments concernant l'humiliation de Christ. Donc, nous avons dit qu'il y a trois étapes. Alors, je construis sur ce que nous avons vu ensemble cet après-midi. Et j'aimerais pour chacune de ces trois étapes vous dire quelques mots. Alors, chaque étape en elle-même vaudrait un temps d'exposition complet. Mais bon, voilà. Donc, on va essayer de faire l'essentiel dans le temps que nous avons. Donc la naissance d'abord, première étape. Alors on peut dire vraiment c'est une naissance humiliée à cause de l'insignifiance de la famille de Jésus. Jésus n'était pas du tout né dans un palais, etc. Vous savez, vous connaissez les circonstances. Les parents étaient des gens simples, du peuple, voilà, bien que de la famille de David, mais quand même. Il est né à Bethléem à cause du recensement. Vous connaissez l'histoire, une petite ville, là aussi insignifiante. Et puis, bon, malgré que ce soit la ville de David, mais quand même, à cette époque-là, Bethléem n'avait pas grande importance. Et puis, il a habité dans une ville qui s'appelle Nazareth. Et puis, Matthieu le soulève, il dit, Matthieu 2, 23, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, cet accomplissement de la manière dont Matthieu voit l'accomplissement ici est très curieuse, parce qu'en réalité, vous ne trouvez aucune prophétie où on dit que le Messie à venir sera appelé Nazaréen. Ça s'appuie sur rien du tout. Et malgré tout, Matthieu le dit, donc il y a des raisons pour le dire. Matthieu n'était pas non plus un farfelu, hein, il savait ce qu'il écrivait. Et probablement, alors si vous avez des Bibles avec des petites notes, vous verrez qu'il y a une petite note en bas qui vous renvoie à Ésaïe 11, verset 1. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'hébreu, ça ne va pas vous aider à grand-chose parce que. En hébreu, il est question d'un rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Il se trouve que rameau, en hébreu, ça se dit netzer. Et probablement, Matthieu fait un jeu de mots entre la ville de Nazareth et puis le petit rameau qui sort d'un petit peu nulle part. Et dit, ben voilà, l'endroit est aussi insignifiant qu'un petit rameau. C'est vraiment un petit rien du tout. Donc c'est pour souligner simplement l'insignifiance de l'origine de Jésus. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus naisse à Jérusalem, dans un palais, etc. Mais bon, vous savez, ce n'est pas le cas. Je passe. Voilà. Les autres éléments sont connus. Un mot sur la date, simplement, il est évident que Jésus n'est pas né le 25 décembre, l'an 0. Voilà, c'est impossible. Puisque le roi Hérode était encore en vie, on sait que le roi Hérode est mort en plus 4. Donc, non, j'ai dit quoi? Si, plus 4, oui, tout à fait exact. Et non. En moins 4. Ah, mes notes disent quoi? Bon, je dis ça de mémoire, c'est noté quelque part, mais voilà. Donc la référence est Matthieu 2, 19 à 20. Il est, donc oui, c'est ça, il est mort en moins 4, c'est exactement ça. Donc Jésus était encore en vie. Non, c'est l'inverse. Hérode, oui, encore, voilà, c'est ça. Je cherche à faire la connexion. À force de vouloir résumer, ça devient compliqué de faire la synthèse, puisque Hérode est mort quand Jésus est revenu avec ses parents d'Égypte. Donc l'année zéro ne correspond pas du tout à ça, donc probablement il est né avant. La date exacte est un petit peu difficile à déterminer. Il y a aussi la question de l'étoile des mages. On se demande aussi à quoi ça correspond, à quel phénomène extraordinaire. Donc il y a toutes sortes d'hypothèses là-dessus, soit une conjonction de planètes, soit un autre phénomène dans le ciel que les mages ont pu observer et qui a servi aussi. Alors selon l'hypothèse que vous prenez, vous n'arrivez pas tout à fait à la même date. En tout cas, l'année zéro ne semble pas convenir. Donc ça, c'est à peu près certain. Donc c'est plutôt avant l'an zéro. Donc, voilà. Mais c'est aussi une naissance miraculeuse quand même. Ce n'est pas juste une naissance un petit peu insignifiante, elle est aussi miraculeuse. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est quand même pas banal, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûrement extraordinaire quand même. Voilà. D'ailleurs, avec des petits flashs de gloire qui apparaissent quand même, les anges, rappelez-vous, hein, quand les bergers, etc., bon, voilà, ça fait partie de toute l'histoire de Noël. Alors, cette naissance miraculeuse a posé problème. Parce que, alors pour plusieurs raisons. Une des raisons, pour dire, ben, elle est douteuse, cette naissance miraculeuse, Alors, une des raisons pour dire ça, une des raisons qui a été donnée dans l'histoire, c'est de dire, mais au fond, il y a très peu de versets bibliques qui en parlent. Hein. Cette naissance miraculeuse, il y a quelques versets chez deux évangélistes, chez Luc et chez Matthieu. Marc n'en parle pas. Jean n'en parle pas. Ben, quand même, s'il y a si peu de versets, est-ce que c'est sérieux? Et à ça, vous répondez. Vous répondez? Mais bien sûr que si, c'est sérieux, bien sûr. Une vérité ne se construit pas forcément sur le nombre de versets, mais sur la clarté de ce qui est dit. Donc je pense là, on peut dormir un petit peu sur nos deux oreilles, même si effectivement, il n'y a pas beaucoup de mention du fait. Là où c'est mentionné, c'est clairement mentionné, donc il n'y a pas de souci avec ça. Alors une autre objection qu'on a formulée, alors cette fois-ci c'est Matthieu que ça concerne. Matthieu 1, 23 nous dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Et visiblement, alors encore une fois Matthieu, voilà, ça tombe encore sur lui, Matthieu cite, c'est une citation, d'Ésaïe 9 au verset 6, où on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. Non, ce n'est pas la bonne référence, c'est Matthieu 7. En fait, parce que Ésaïe 9 est en rapport avec Ésaïe 7. Alors, je cherche la réponse. Ésaïe 7, verset 14, voilà, qui est redondant avec Ésaïe 9, verset 6 que j'ai lu. Et dans Ésaïe 7, verset 14, le texte hébreu ne parle pas d'une vierge, mais il parle d'une jeune femme. Et quand Matthieu cite Ésaïe, il cite bien d'une vierge. Alors on nous dit, voilà, ben, Matthieu a triché. Le texte hébreu parle d'une jeune femme et lui, il parle d'une vierge, ce qui n'est pas la même chose. À ça, vous répondez? Peu plus fort.
C'est pas son juste.
C'est pas? Ben, bien sûr, c'est absolument pas contradiction. Et en effet, le terme hébreu est plus large et moins technique que le terme grec, parthénos. Le terme hébreu, c'est Alma, le terme grec, c'est Parthénos. Mais ce n'est pas parce qu'un terme hébreu a un sens, une signification est plus large qu'un texte grec plus réduit que les deux sont contradictoires. Il n'y a absolument pas de contradiction. Ça s'articule bien. D'autant plus que il était assez évident, en tout cas dans le contexte hébreu, qu'une jeune femme est vierge jusqu'à son mariage. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, dire ça, c'est un petit peu curieux, mais il y a des époques, il y a des endroits où c'est une évidence. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est plus une évidence. Je suis au courant, ça va? Merci. Mais quand même, c'est notre siècle et c'est notre époque. Hein, et voilà, d'autres endroits, ça se passe différemment. Et c'était très grave en milieu juif d'arriver au mariage sans être vierge. On pouvait risquer sa vie dans l'histoire. Hein, donc voilà. Donc les choses sont pas du tout si contradictoires que ça. Alors, une question qui se pose ici, quel est le sens théologique de cette naissance? Qu'est-ce qu'elle signifie théologiquement? Plusieurs choses. Il me semble qu'elle signifie d'abord que ce bébé qui naît est tout à fait extraordinaire. C'est la filiation divine. Il n'a pas de père physique. Il a un père spirituel au ciel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui sort totalement, entièrement de toute norme humaine. Il y a là une filiation qui est absolument extraordinaire. Et puisqu'elle est divine, l'enfant qui va naître ou qui est né aura une trajectoire, une vocation, une mission qui sort de l'ordinaire. Dès le début, on marque cela. Parfois aussi, on l'a mis en rapport avec le fait qu'avec cette naissance, peut-être il y a déjà une nouvelle création qui est en germe. Dieu fait quelque chose de nouveau, de complètement nouveau, et qui naît là, et qui va avoir des répercussions qui vont toucher toute l'humanité. Mais pour l'instant, c'est qu'un petit germe, c'est un bébé qui est là, mais qui est particulier. Autre thème que cette naissance illustre, me semble-t-il, c'est le thème de la grâce. On voit ça dans la salutation de Marie, je te salue, Luc 1, verset 28, je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Et cette grâce se manifeste en particulier par le fait que Dieu se passe d'homme mâle. Les hommes sont exclus de cette histoire-là. C'est une histoire de femme avec Dieu. Et symboliquement, dans la symbolique biblique, La femme représente la réceptivité, la grâce, elle reçoit, et c'est le fait que la grâce lui est faite de recevoir le Sauveur. Alors c'est aussi, me semble-t-il, un des thèmes qui est associé à cette naissance miraculeuse. C'est l'inverse du fantasme de l'autoréplication. C'est pas une femme qui fait un enfant tout seul. Ça, c'est nouveau contemporain. Hein. Ça fait partie un petit peu du monde fantasmagorique féminin pour certaines femmes aujourd'hui d'avoir un enfant tout seul, sans homme. Donc, c'est pas ça l'histoire. Ça, c'est vraiment une transposition culturelle qui ne joue pas du tout dans le contexte dans lequel Jésus est né. Ce n'est pas du tout une parthénogenèse, c'est autre chose. Ce n'est pas l'automultiplication d'une femme. D'ailleurs, entre nous soit dit, si c'était le cas, si vraiment Marie s'était automultipliée, ça aurait pu être un garçon. Ça aurait été automatiquement une fille. Pas de chromosome Y dans l'histoire, donc ça peut être une fille. Si c'était possible. Si c'était possible. Mais comme ce n'est pas possible, on arrête de rêver. Donc, c'est le thème de la grâce qui est ici souligné par cette naissance. L'humain n'intervient pas, c'est Dieu qui prend l'initiative. Et Marie, qui représente ici, me semble-t-il, plus qu'elle-même, peut-être même symboliquement le genre féminin, reçoit cette grâce. Grâce qui est faite. Je ne suis pas une femme, je suis un homme qui parle, hein, mais je trouve ça très beau quand même. Alors, voilà. Je pense que si j'étais une femme, ça me toucherait particulièrement. Savoir que Dieu s'est plu à se passer de mal pour le salut. C'est la beauté du schéma. Alors, en quoi c'est un modèle pour la mission? Là, je reviens à John Stott, que j'ai cité déjà. Stott nous dit, au fond, cette incarnation du Christ, le fait qu'il devienne homme, est un modèle pour la mission, pour notre mission dans le monde. Dans le sens où Dieu prend une forme pour nous comprendre, pour qu'on puisse le comprendre, pour communiquer avec lui. Il prend une forme culturelle. Il s'insère dans une culture, la culture juive, l'existence juive du premier siècle. Et dit-il, ben c'est ce que nous sommes appelés à faire pour nos contemporains. Nous sommes appelés à nous identifier à nos contemporains. Essayer de nous mettre dans leur peau, de comprendre comment ils pensent, comment ils ressentent, comment ils vivent, pour les toucher le mieux possible avec l'Évangile. Plus nous mettrons de distance entre nous et nos contemporains, moins nous arrivons à nous identifier à eux et leurs problématiques, plus nous aurons du mal à les toucher avec l'Évangile. L'incarnation signifie, je dois me rendre proche de celui que je veux toucher par l'Évangile. Parler son langage, entrer dans sa manière de penser, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. Et là, je peux lui parler de l'Évangile. Mais ça me demande un effort. Ça me demande un renoncement, un espèce de confort intellectuel, un espèce de confort de qui je suis, ce que je suis, pour me rapprocher de ce que je veux toucher. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose que l'apôtre Paul a dit concernant son propre ministère? Est-ce que Paul a fait ça, le missionnaire par excellence? Est-ce qu'il a eu ce genre de démarche que je viens de décrire, d'incarnation? Un Corinthiens 9, versets 19 à 22. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois même pas sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sans loi comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Bien-aimés, si nous voulons gagner nos prochains pour l'Évangile, nous devons nous approcher d'eux, de leur monde, de leur univers, et essayer de les comprendre, de ressentir. Et nous serons d'autant plus capables de dire l'Évangile dans les mots qu'ils peuvent entendre et comprendre. Mais ça nous demande un effort. Ça ne se fera pas tout seul. Deuxième étape, c'est le service. Je vais être plus bref sur ce point-là. Jésus dit, Luc 22, verset 27, Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le service est la marque de fabrique du Seigneur. Il est le serviteur. Bien avant d'être sur la croix, le serviteur par excellence, il est déjà le serviteur par sa vie. Il guérit, il enseigne, il libère, il manifeste sa compassion et en particulier quelque chose d'un peu curieux pour le Seigneur et qui marque justement son état d'esprit de service, il se soumet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la soumission. Je parle pour tout le monde là, hein, pas seulement pour les dames, que ce soit bien clair. Ce n'est pas un message voilé, téléguidé. Non, 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 non. C'est pour les messieurs. Jésus se soumet à l'autorité familiale. Il était soumis à ses parents. Il se soumet à son milieu social et politique. Il paye l'impôt à César. Se soumet à l'autorité de Pilate, alors qu'il pourrait y échapper. Il se soumet aux principes religieux de son époque. Il est circoncis le huitième jour. Il paye la taxe du temple. Il se soumet au Sanhédrin pour sa condamnation à mort. Il manifeste une soumission spirituelle par le fait qu'il est baptisé à ce qui est juste, soumission à Dieu d'abord. Il se soumet, en dernier, dernier exemple, à la discipline du serviteur de Dieu. Alors, c'est une question. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu est discipliné? C'est quoi la discipline du serviteur de Dieu? Alors, si vous connaissez vos classiques, vous pourriez y répondre. Luther, par exemple, puisque c'est l'année, le 500e anniversaire de la réforme avec l'histoire de Luther qui affiche ses thèses. Comment Luther voyait-il la discipline du serviteur de Dieu? Vous avez une idée de ça? Un serviteur de Dieu doit faire quoi, d'après Luther? Qu'est-ce que vous pensez? Luther disait trois choses. Oratio, meditatio, tentatio. C'est du latin. Luther parlait latin, écrivait en latin. Moi pas. Alors je traduis pour moi. Oratio, la prière. Le serviteur de Dieu doit prier. C'est un homme de prière. Son premier service, c'est de prier. Est-ce que Jésus a prié? Ah oh oui, bien des fois. Ce serait une belle thématique, hein? La méditation. Méditation de la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être imprégné de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus était imprégné à méditer la parole de Dieu, vous pensez? Oh, clairement. Troisième élément, peut-être le plus désagréable, tentatio. La tentation, l'épreuve. Est-ce que Jésus était éprouvé? Il était éprouvé. De plusieurs manières. Alors j'aurais pu aussi développer la notion de la souffrance dans le service de Jésus, mais le temps me manque, mais c'est aussi un élément important de son service. Jésus a souffert de bien des choses, très courtement, de l'opposition. Tout le temps, on le voit en but, aux critiques, aux mises en question. Il a souffert de l'incompréhension de ses plus proches. La famille n'a pas compris. Il avait la famille contre lui. Il est un fou, disait-il. Et il a souffert, je crois, plus d'une fois, de la lourdeur spirituelle de ses disciples. Franchement, Marc est particulièrement sensible à ça. Les évangiles de Marc, combien de fois Marc est critique, a des petites remarques critiques, comme ça les disciples qui n'y comprennent rien, ils sont comme moi. Et je pense que des fois le Seigneur va désespérer de Roland, mais quand même. Oups ça. Même quand il tape pas sur le pupitre, il comprend rien. Pourtant c'est clair dans l'Écriture. Elle est tellement lourde spirituellement, et tellement de mal à comprendre. Quel est le sens théologique de cette étape de service? Bien, il me semble que le sens théologique de tout cet ensemble que j'ai essayé de décrire avec quelques exemples très rapides, c'est le service est un modèle pour nous. La noblesse du serviteur de Dieu, c'est le service. C'est pas pour rien qu'on dit serviteur de Dieu, c'est le service. Nous sommes appelés à être d'accord, de servir humblement, voire de souffrir, si le service du Seigneur le demande. Jean 13 est particulièrement éloquent à cet égard. Au moment où Jésus lave les pieds à ses disciples, il aurait pu s'en passer, hein. C'est eux qui auraient dû lui laver les pieds et non pas l'inverse. Bien sûr, il y avait une charge symbolique en se lavant des pieds, c'est évident, mais même Jésus dit, verset 15, Je vous ai laissé un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Quand est-ce que la dernière fois j'ai lavé les pieds à quelqu'un? Je ne parle pas physiquement, vous ne l'avez probablement pas fait physiquement, mais symboliquement. Quand est-ce que pour la dernière fois, je me suis approché de quelqu'un qui était dans la peine, qui avait besoin d'être soutenu, qui avait besoin d'un service, grand ou petit? Et je l'ai fait par amour pour le Seigneur. Et c'est d'ailleurs étonnant comment l'apôtre Pierre se sert de cette notion de service, parce que c'est justement aux esclaves. C'est 1 Pierre 2, versets 18 à 25, si vous prenez des notes. C'est justement aux esclaves qui sont maltraités que Pierre cite le service de Jésus. Au fond, vous les esclaves maltraités, qui ont un maître dur, persévérez dans votre situation, parce qu'en faisant cela, vous êtes dans la position du serviteur dans laquelle était Jésus. Et il met ça en rapport avec Ésaïe 53 que très certainement vous connaissez bien. Cette notion de service est aussi une attitude de base pour la mission. Il n'y a pas de mission chrétienne sans service. Annoncer l'évangile à quelqu'un, c'est lui rendre un service. Ce n'est pas lui asséner une vérité d'en haut. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas, et maintenant, moi, je vais te dire ce que tu dois savoir. Et t'es intérêt à ouvrir tes oreilles pour bien que ça rentre dans ta tête. Moi, je suis parfois choqué quand j'entends bien-aimés dans le Seigneur me raconter comment ils parlent de l'Évangile parfois à leurs proches. Je me dis, mais moi, si on parlait comme ça, je ne crois pas qu'on me convertirait. Je pense à cette épouse qui veut absolument gagner son mari pour le Seigneur et qui lui répète régulièrement tout ce qu'il fait de travers, tout ce qui n'est pas juste et combien elle aurait intérêt à se convertir. Et combien il devrait changer, etc., etc., etc. Moi, je serais le conjoint, je dirais, ma chère femme, ben, j'ai envie de tout sauf de ça. Fiche-moi la paix. Parlons de l'Évangile, mais en serviteur. Nous sommes les serviteurs d'un message, nous sommes les serviteurs des personnes, nous ne sommes pas au-dessus. Avec l'orgueil d'une vérité que nous aurions et que d'autres n'auraient pas. L'Évangile est la vérité. Nous avons la grâce de l'avoir et de le comprendre. Mais c'est une grâce qu'on nous a faite. Et cette grâce doit nous rendre. Dernière étape, la passion, la mort du Seigneur. C'est, alors je vais avoir les plusieurs termes, un peu globaux comme ça, c'est une passion totale, la première chose que je pourrais dire, qui implique l'entier de la personne et l'entier de la nature humaine du Seigneur. Ce n'était pas juste une parenthèse, je ne sais pas quoi. C'est une vraie souffrance, une vraie agonie dans l'humanité, comme nous pouvons souffrir, comme nous pouvons agoniser quand nous sommes mal et encore pire que cela. Le supplice de la croix est un supplice horrible. Alors, il paraît qu'on meurt asphyxié quand on est pendu, les poumons sont écrasés. Alors, j'avoue que je ne suis pas du tout domaine médical, n'est pas vraiment fort, mais j'ai cru comprendre à cela que c'était essentiellement une question d'asphyxie à la longue. C'est pour ça qu'on casse les membres des suppliciés pour qu'ils ne puissent plus se retenir, pour qu'ils meurent plus vite. Donc, ils n'ont plus de point de. On sait que c'était sous Ponce Pilate. Alors effectivement, on sait que Ponce Pilate était gouverneur de Judée de 26 à 36. Donc ça nous donne une fourchette pour l'année de la mort du Seigneur. Alors Pilate était quelqu'un qui n'était pas très commode. Il a mauvaise réputation. Même en dehors de l'histoire biblique, c'est un gouverneur qui était un petit peu pénible à vivre. Et d'ailleurs, il semblerait bien qu'il se soit fait rappeler à Rome pour cause d'excès dans sa manière de gérer sa contrée. On sait aussi que c'était au moment de la Pâque juive. Ce n'était pas n'importe quel jour. L'apôtre Jean en particulier insiste. Jésus est mort l'après-midi, le vendredi après-midi, au moment où on immolait la Pâque. Et le soir, le jour commence le soir dans le contexte juif. C'était le lendemain. C'est considéré que le lendemain, pour nous, c'est le soir. Pas tout à fait les mêmes considérations à ce moment-là. Alors, je dis, on voit ça, c'est Jean 18, verset 28, nous dit que ils sont chez Caïphe, donc, et ils emmènent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller pour pouvoir manger la Pâque, parce que la Pâque, c'est le soir, donc il est libre de rentrer le matin. Jean 19, verset 31 encore, toujours Jean, nous précise que c'était le jour de la préparation, donc le jour avant la Pâque, où on préparait l'agneau, etc. Alors, est-ce qu'on peut en dire plus sur l'année? Eh bien, apparemment, ce jour de Pâques était aussi un jour de sabbat, le 15 Nisan, et il y a 2 années qui correspondent assez bien pour cela, c'est ou le 7 avril de l'an 30 ou le 3 avril de l'an 33. Alors, vous trouverez les deux hypothèses sont défendues, et les spécialistes, l'un penche plutôt pour l'an 30, l'autre pour l'an 33. Et je remarque que de temps en temps, un consensus se fait sur une date, et puis quelques années après, le consensus se met sur l'autre date. Je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça, mais voilà, je le signale simplement. Alors du coup, nous avons un problème avec ce qui s'est passé le jeudi soir. Si Jésus meurt le vendredi après-midi, et donc la Pâque commence le soir, qui est donc déjà le samedi pour les Juifs, qu'est-ce qui s'est passé le jour avant le jeudi soir. Parce qu'on nous dit, ben, c'est déjà un repas de Pâques. Matthieu 26, verset 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, où veux-tu que nous préparions le repas de Pâques? Donc ce repas qui s'apprête à manger ensemble est qualifié de repas de Pâques. Alors, vous répondez. Je n'entends pas grand-chose. Pardon? Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'était le jeudi soir, hein, c'est la chronologie de la semaine sainte. Mais on dit que c'est un repas de Pâques, mais en fait, la Pâque, c'est le lendemain. Ça vous a jamais frappé? Vous n'avez jamais réfléchi à la chronologie des récits de... C'est assez complexe, en fait. Hein. Bah, on pourrait passer tout le week-end rien qu'avec la chronologie de la semaine de Pâques. C'est vraiment, c'est assez extraordinaire, hein. Franchement. Alors, c'est juste un problème parmi d'autres. Hein. Il y en a quelques autres. Mais qui se résolvent. Mais c'est juste des questions qui se posent. Oui, alors, c'est pas compliqué. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Les uns plaident que c'est une différence de calendrier. Tout le monde n'a pas le même calendrier. Parce qu'en effet, c'est réel. Alors, ça, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Effectivement, en Palestine, à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs calendriers qui ont cohabité. Et selon les calendriers, les jours de fête étaient un petit peu décalés. Alors ça pourrait être une explication. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne, mais enfin c'est un élément qu'on a plaidé. Probablement, la réalité est un peu différente, parce que lorsqu'on analyse vraiment ce qui se passait durant ce repas avec les éléments que l'écriture, dont l'écriture nous parle, et je peux pas aller dans le détail maintenant, on se rend compte qu'il y a des éléments qui font partie du repas de Pâques qui manquent. Donc c'est un repas un petit peu incomplet. Et on peut supposer que ce repas du jeudi soir, qui est appelé repas de Pâques, est en réalité un repas prophétique, d'une certaine façon. C'est un repas de Pâques que Jésus voulait manger avec ses disciples, sachant que le lendemain, pour la Pâques officielle, on va dire ça comme ça, ben, il n'était plus en vie. Il est mort. Donc il ne peut plus manger le repas de Pâques avec eux. Donc il anticipe le jeudi soir et il en profite pour leur expliquer un certain nombre de choses importantes par rapport à l'œuvre qu'il va accomplir, en particulier la scène qui est instaurée à ce moment-là, pendant ce repas-là. Ben, c'est une petite difficulté voilà, de chronologie dans le texte. Donc, voilà. Ce n'est pas la chose la plus importante non plus, mais ça fait partie. Alors, j'ai dit une mort totale. C'est aussi une... Alors, c'est maintenant que ça devient compliqué, et c'est ça le point le plus délicat de mon exposé. C'est aussi un moment crucial dans ce qui se passe dans la relation entre le père et le fils. Et c'est une grande question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé au fond au moment où Jésus meurt sur la croix? Alors, il dit un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est dit. Il y a sept, en général, on dit qu'il y a sept choses que le Seigneur a dites sur la croix. Alors, celle que je vise particulièrement, c'est celle que Matthieu et Marc nous rapportent, Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, cette phrase a eu d'innombrables interprétations. Vraiment, il y a énormément de choses ont été dites à propos de cette phrase, de ce que ça veut dire ou de ce que ça ne veut pas dire. Alors, en règle générale, moi j'entends souvent dire, en tout cas dans le milieu, ben voilà, le père a abandonné le fils et il y a une séparation entre les deux, et certains vont même jusqu'à dire, ben, c'est la mort spirituelle de Christ. Ou même encore plus loin en disant, c'est la mort de Dieu. Dieu est mort à la croix. Alors, entendant par là, c'est, bon, il explose quoi. Enfin, voilà, c'est, enfin, mais toutes sortes de choses derrière cette expression-là. C'est quand même pas si simple que ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. En trois personnes, il est vrai, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Comment Dieu peut-il être séparé de Dieu alors qu'il n'y a qu'un Dieu? Nous pouvons imaginer ça entre nous, parce que nous sommes des humains différents. Nous sommes des personnes différentes et des humains entièrement différents. Mais pour la personne de Dieu, ça ne joue pas comme ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule entité, mais en trois personnes. Alors, que veut dire l'abandon de Dieu par Dieu alors qu'il n'y a qu'un Dieu dans ces circonstances-là? C'est franchement un casse-tête. Alors, si vous voulez lire quelque chose de pertinent là-dessus, je recommande un petit livre de Paul Wells, qui était le doyen de la faculté de théologie à Aix, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Entre ciel et terre, et où il reprend chacune des paroles de la croix, dont celle-là. Et il me semble que ce qu'il en dit est particulièrement pertinent. Et Paul Wells, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est la retenue quand il parle de ce point. Il dit au fond, nous sommes là devant un profond mystère. Il y a quelque chose qui a touché la personne de Dieu, dans le sens que le Fils a pris sur lui la culpabilité des humains, et dans ce sens, la colère du Père l'a touché. Mais lui-même, en tant que personne, il est totalement innocent. Ce ne sont pas ses péchés qui sont en cause, il est innocent, il est absolument sans péché. Mais ce qui le touche, c'est la colère du Père pour nos péchés. Mais alors, qu'est-ce que ça implique pour leur relation? Honnêtement, je suis aux limites de ce que je peux comprendre. Il me reste pour moi une part de mystère. Alors, moi, j'exhorte régulièrement mes bien-aimés en leur disant, écoutez, quand vous parlez de ça, soyez sobre dans la manière de parler, dites sans pas trop, parce que vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, il y a des éléments techniques. Par exemple, vous savez d'où ça vient, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça vient de quelque part, hein? C'est pas juste Jésus qui invente ça sur le moment. C'est une citation. De quoi? Oui? Psaume 22, verset 1. Et savez-vous comment on citait les psaumes à l'époque? Alors, pas les petits numéros. Là, on pouvait dire 1, 2, 3, 4, mais les grands numéros de psaumes. Sachant que la numérotation des psaumes date des premiers siècles de notre ère. Hein. C'est beaucoup du 10e siècle vers le 11e siècle, même, je crois, dans ces eaux-là. C'est très tardif. La numérotation de nos chapitres bibliques est très tardive. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de numéro. Comment on fait pour citer un psaume quand il n'y a pas de numéro? Pas de chapitre, pas de verset, vous faites quoi? Oui, la première phrase, exactement. On cite la première phrase. Et on suppose que la première phrase suffit pour repérer à quel psaume on est, quel chapitre on est. Alors avec 150, c'est particulièrement ardu, hein, on est bien d'accord. Mais quand même. Et on peut se poser légitimement la question, quand Jésus cite ce premier verset du psaume 22, est-ce qu'en réalité, il n'a pas en tête l'entier du psaume 22? Et alors c'est une supposition, je ne peux pas l'affirmer, hein, mais c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Dans ce cas, si vous lisez le psaume 22, vous vous rendez compte qu'il y a une première partie qui est un cri vers le ciel de désespoir, et une deuxième partie qui est un exaucement. Et entre les deux parties, il y a cette affirmation, tu m'as répondu ou il m'a répondu. Donc il se peut que quand Jésus cite cela, il dise bien plus que juste la phrase. Il y a peut-être tout un psaume là derrière, en réalité. Mais je ne peux pas l'affirmer. C'est juste une possibilité. Ce qu'on peut dire encore, c'est que Jésus a quand même remis son esprit entre les mains du Père. C'est peut-être pas la dernière phrase, hein, c'est pas le, l'histoire s'arrête pas là. Même s'il y a ce combat intérieur terrible et cet énorme trouble, cette angoisse qu'on voit déjà à Gethsémané, il y a aussi la confiance où Jésus remet sa vie entre les mains de son Père. Il meurt en confiance en son Père pour l'accomplissement de son œuvre. Luc 23, verset 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Peut-être faut-il aussi noter que la passion de Jésus est pénale. C'est un tribunal qui l'a condamné. Deux accusations. Pour les Juifs, accusation de blasphème parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Matthieu 26, verset 63. Pour Pilate, condamnation politique parce qu'il est Messie, roi des Juifs. Donc là, évidemment, pour Pilate, c'est un petit peu difficile à gérer, bien que Pilate a reconnu l'innocence de Christ, de ce dont on l'accuse. Matthieu 27, verset 11. Dernier mot, c'est une passion volontaire. Les évangiles insistent. Dans les actes, on insiste. Quand on relit l'histoire de sa crucifixion, il est mort, pas du tout victime des circonstances. Il est mort parce que c'était le dessein de Dieu et parce qu'il l'a bien voulu. C'était son choix assumé. C'est pas un accident. C'est pas un hasard. C'est pas tout ce que vous voulez. C'est l'obéissance du Fils au Père qui l'amène à être d'accord de mourir. Pour relire les récits de Gethsémané, ce combat intérieur de la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans sa vie. Alors, quel est le sens théologique de sa mort? Et on terminera avec ça, il y a encore une application. C'est énorme, énorme. Alors là, c'est une explosion. Franchement, il y a un poids théologique dans cette mort qui est absolument extraordinaire. L'Écriture met sa mort en rapport dans le domaine religieux avec un sacrifice. 1 Jean 2, verset 2, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Victime expiatoire, c'est un agneau qu'on tuait, hein, c'est un sacrifice. La croix est un sacrifice. Dans le domaine juridique, la croix est un châtiment. Ésaïe dit, Ésaïe 53, verset 5, la punition, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et à cause de ce châtiment, nous pouvons être justifiés. Dans le domaine social, c'est une rançon. La rançon, c'est un prix qu'on paye pour que quelqu'un soit libéré. C'est le prix que Dieu a payé pour que nous soyons libérés. Hébreux 9, verset 12. Mais avec son propre sang, il nous a obtenu un rachat éternel. Dans le domaine spirituel, la croix est une victoire sur les puissances des ténèbres. Colossiens 2, verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est aussi le triomphe contre les puissances des ténèbres qui veulent continuer à nous accuser alors que Christ nous justifie. Et puis, dernier élément que je donnerai ici, alors désolé d'être aussi rapide, mais la croix est aussi, dans le domaine historique cette fois-ci, un accomplissement. La Pâque juive était une image, était un avant-goût de libération que le Seigneur allait opérer. Mais la vraie Pâque, le vrai agneau pascal, ce n'est pas celui que les Juifs tuent chaque année. C'est celui qui est venu sur cette terre, s'est incarné et est mort sur une croix à Golgotha. La vraie Pâque, pour le nouvel exode pour son peuple, c'est à ce moment-là que ça se passe. Ce qui s'est passé avant n'est qu'une préfiguration, une préparation à ce qui allait arriver plus tard. 1 Corinthiens 5, verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Il est le vrai agneau de Pâques que l'autre ou les autres préfiguraient. Ne faisaient que préfigurer. Mais ce n'était pas encore la réalisation. Et tout cela marche sur le principe de la substitution. Jésus nous remplace. C'est moi qui devrais subir cette peine. C'est moi qui suis coupable. C'est moi qui devrais subir le châtiment. C'est moi qui devrais être sacrifié. C'est moi qui devrais rester en prison et payer pour ma libération. C'est moi que le diable peut accuser à cause de ce que je suis et à cause de ce que je fais. Mais le Seigneur. C'est une mort. Franchement, il fallait le faire. Et c'était la seule solution possible pour le salut des humains. Il n'y en a pas d'autre. Y a-t-il une application pour notre mission dans le monde? Je termine par là. Vous la devinez. Si Christ est mort, nous devons être. Et à laisser notre vie pour le service du Seigneur. Alors bien sûr, on ne va pas se précipiter là pour mourir, ça c'est pas le problème. Mais pour nous souvent, alors dans les pays musulmans ou dans les pays totalitaires, ça signifie parfois littéralement la mort. Nous ne vivons pas dans ces conditions-là, heureusement pour nous. Mais pour nous souvent, ça signifie le renoncement. Comment voulez-vous que le royaume de Dieu progresse si nous ne sommes pas prêts à renoncer? Si nous voulons accumuler. Jésus a dit, et je l'ai cité, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Je crains que parfois nous restions seuls parce que nous ne voulons pas mourir et nous ne voulons pas tomber en terre. Nous voulons défendre nos intérêts. Nous voulons nous construire. Et la conséquence, bien des fois, c'est nous restons seuls. Nous ne produisons pas de fruits. Nous sommes stériles pour le royaume de Dieu. Parce que nous ne voulons pas renoncer. Nous voulons recevoir. Nous voulons accumuler. Et nous vivons dans une société qui fonctionne comme ça. J'aimerais pour terminer vous lire une citation de la maréchale. Je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose, mais c'est un surnom qu'on a donné. Elle n'était pas maréchale, me semble-t-il, mais c'est un surnom qu'on a donné à la fille aînée de William Booth, le fondateur de la. Catherine, si je me souviens bien, le fondateur de l'armée du salut. Et elle lui a succédé pendant un temps, elle a succédé à son père. Elle était l'ouvrière pour l'introduction de l'armée du salut en France et en Suisse. Et ça s'est passé très difficilement, particulièrement en Suisse. Et Catherine a été mise en prison à Neuchâtel. Elle est emprisonnée parce qu'à cause du. Elle crée du désordre dans l'ordre public parce que voilà, les salutistes étaient dans les rues de Neuchâtel et prêchaient, etc. Donc ça faisait désordre. Et elle a été mise en prison. Et c'était dans les années. Les années elle est morte en 1955. Elle est née en 1858. Donc c'était peut-être dans le début 20e siècle, quelque chose comme ça. Je ne sais pas la date exacte, mais elle dit la chose suivante. Jésus a été crucifié. Depuis ce jour, les hommes ont toujours cherché une voie plus facile. Mais les voies les plus faciles ne mènent nulle part. Si vous voulez gagner des milliers d'hommes et de femmes qui sont sans Dieu, soyez prêts à être crucifiés, vous et vos projets, vos idées, vos préférences et vos désirs. Vous dites que les choses ont changé et que nous vivons sous un régime de liberté. Vraiment? Sortez et vivez comme le Christ a vécu. Parlez comme il a parlé. Enseignez comme il a enseigné. Dénoncez le péché partout où vous le constatez, et vous verrez si l'ennemi ne s'élancera pas contre vous avec toute la furie de l'enfer. Le Christ n'a pas été crucifié dans un salon. Il n'a pas passé sa vie dans un fauteuil confortable. Reculez-vous devant la peur d'être dévalorisé, incompris, et dénigré. Il est temps que vous soyez crucifié. Vous propose qu'on prenne un temps dans le silence, le recueillement pour s'approprier les paroles fortes qu'on a entendues. Et si l'un ou l'autre se sent de prier, faites-le spontanément. Et puis je conclurai personnellement par la prière.